Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap à Cap thématique, la réforme de la justice vue par les avocats. Bienvenue sur Esprit Occitanie. La justice est en effervescence, pour ne pas dire en crise. L'on sait que son budget est un des plus faibles de l'Union européenne, que le manque de magistrats, mais aussi de greffiers, est particulièrement criant. Les justiciables doivent attendre des mois, quand ce n'est pas des années, pour espérer avoir un jugement. Bref, au pays des droits de l'homme, la justice est bancale et mal en point. Le gouvernement, dans sa volonté de réformer, a décidé de s'attaquer à la justice. 4 jours après les annonces d'Emmanuel Macron concernant la prison et l'efficacité des peines, c'était pas très loin de chez nous à Agen, le ministre de la Justice, ou plutôt la ministre de la Justice, a profité d'un déplacement au palais de justice de Reims pour présenter les grands axes de sa réforme en 3 points. Une modification territoriale de la justice, les cours d'assises dessaisies d'une partie des affaires criminelles, la fin des partenariats publics-privés pour la construction de prisons et de tribunaux. Dès le 21 mars, les avocats ont lancé des opérations de protestation un peu partout en France, et notamment bien sûr à Toulouse, contre ce projet de réforme. Le texte a été soumis au Conseil d'État, il devrait passer en Conseil des ministres le 18 avril. La grève des audiences a été votée, provoquant des renvois des dates ultérieures, des affaires civiles, pénales, prud'homales et commerciales, ainsi que la suspension de la désignation par les bâtonniers des avocats commis d'office dans les procédures d'urgence. Certains barreaux, tels Melun, Béziers, Auxerre, ont voté une grève illimitée. Des rassemblements ont eu lieu devant l'ensemble des palais de justice du pays. La présidente du CNEB, Christiane Ferral-Schul, a affirmé, et je la cite, « avoir le sentiment d'être instrumentalisé ». Elle dénonce aussi la place faite dans le projet de loi aux plateformes privées de médiation en déclarant, recitation, « nous ne sommes pas contre la déjudiciarisation, mais à condition que l'avocat soit présent pour apporter de la sécurité et non que ce soit organisé au profit de plateformes privées, des notaires ou des huissiers ». Fermez la parenthèse. Les avocats sont aussi remontés contre la réforme de la procédure pénale. C'est un projet qui répond aux seules demandes de la police et des parquets, a déclaré toujours la toute nouvelle élue à la présidence du CNB, qui est le Conseil national des barreaux. Face à cette situation, il semble que le fil du dialogue ne soit pas rompu et le ministère étudierait certaines modifications du texte. Comme l'a dit Mme Belloubet, notre ministre de la Justice, le projet n'en est qu'à son tout début, qui n'exclut pas ici la présentation du texte au Conseil des ministres, d'ici la présentation du texte au Conseil des ministres, d'une saisine rectificative du Conseil d'État. À voir et à suivre. Alors, pour évoquer cette question, eh bien, on va retrouver autour de la table, bien sûr, des avocats et bien sûr du barreau de Toulouse, à savoir, on va commencer par la dame, hein, maître Nathalie Dupont-Ricard, maître Éric Dunac et puis maître Boyadjian, qui est le vice-bâtonnier de Toulouse. Bien, madame, messieurs, alors sur cette question qui veut... Bon, d'abord, disons un mot du barreau de Toulouse. On a le vice-bâtonnier, il faut en profiter.
Profitez-en.
Alors, oui. Qu'est-ce que c'est que le barreau de Toulouse? C'est combien d'avocats et qu'est-ce que ça représente comme volume? Est-ce que c'est un gros barreau ou alors un barreau moyen?
Alors, le barreau de Toulouse, c'est 1582 avocats au dernier comptage. C'est le 4e barreau de province.
Au dernier comptage, c'est amusant.
Au dernier comptage, ben oui, on tient.
Ils bougent tout le temps. Donc
ah les... oui, ils bougent sans cesse.
Il faut les baguer. Hein,
entre les nouveaux avocats et ceux qui prennent leur retraite dûment méritée, il y a bien sûr à chaque fois des comptages qui sont faits régulièrement. C'est, je disais, le 4e barreau de province, le 5e barreau de France. C'est 1500 avocats et avocates, puisqu'il y a autant de femmes que d'hommes dans cette
profession. Peut-être même un peu plus d'avocats.
Un tout petit peu plus, 52 ou 53% au dernier comptage.
Ce qui n'est pas tout à fait représentatif autour de la table, puisqu'on n'a qu'une femme. Mais bon.
Ah ouais.
Avec
des spécialités aussi diverses que, bien sûr, le pénal, qu'on connaît évidemment dans le cadre des médias, mais le civil, le social, le fiscal, le droit des affaires, le droit des sociétés. Bref, tout un panel qui permet effectivement à chaque citoyen, à chaque entreprise, d'avoir accès à un vrai professionnel du droit. Voilà ce que c'est le barreau de Toulouse en quelques mots.
C'est beaucoup pour une ville comme Toulouse, 1580 avocats ou...
Pas plus. À Bordeaux, c'est le même chiffre. À Montpellier, par exemple, qui est une ville un peu en dessous, il y a 1200 avocats. À Lyon, qui est par exemple la troisième ville de France, il y a 3000 avocats. Je pense qu'on se situe dans la moyenne de ce que peut être effectivement un barreau qui est quand même dans la quatrième ville de France.
Alors, Mme Belloubet veut faire des réformes, M. Macron aussi, donc ils sont un peu adeptes de la réforme, souvent la hussarde. Ce qu'elle a proposé aux avocats ne leur convient pas, apparemment.
Ben non, elle ne convient pas aux avocats, mais au-delà de ça, j'allais dire, elle ne convient surtout pas aux justiciables et aux citoyens de ce pays. Cette grève que font les avocats aujourd'hui, et après je laisserai la parole effectivement à mes deux confrères, on ne le fait pas pour les avocats, on le fait vraiment pour le justiciable et pour le citoyen.
C'est ce qu'on dit aussi à la SNCF, on le fait parce que c'est un service public.
J'allais dire, il y a une remise en cause véritable de ce que peut être un état de droit, et s'il n'y a pas les avocats qui sont les garants de ces libertés-là, qui va le faire ? Personne. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement on est rentré dans une phase de dure avec le gouvernement vis-à-vis de ce projet qui, je le répète, a été fait sans concertation ou avec une concertation de façade et qui a pour résultat, je pense qu'on va le développer au cours de cette émission, un désengagement flagrant de l'État dans sa mission régalienne qui est de rendre la justice et également le mépris non seulement des droits de la défense mais j'allais dire aussi des droits de la victime. Et je pense qu'on va pouvoir développer aussi sur ces deux points.
Eh bien, alors développons. Qui c'est qui veut commencer ? Nathalie Dupont-Ricard.
Oui, je voudrais ajouter que ce problème concerne aussi les magistrats et les greffiers qui, dans le cadre d'une intersyndicale, nous ont appelés à faire grève avec eux et font grève avec nous sur les marches du palais, en prenant des motions et en s'expliquant également quelles étaient les conséquences de cette déjudiciarisation qu'on nous annonce. Le premier front sur lequel nous attendions, Madame la Ministre, c'était la délocalisation et la suppression de certains tribunaux au niveau du maillage national. Et puis, d'un revers de manche, d'un revers de parole, elle nous a proposer un projet tout ficelé qui ne passera pas par l'Assemblée nationale, qui ne passera pas par le débat démocratique et qui va, par voie d'ordonnance et de décret, impacter les citoyens et les justiciables.
Enfin, manifestement, le gouvernement veut faire des économies puisque ce ne sert plus de l'Assemblée nationale, ce ne sert plus du Sénat, on ne gouverne plus que par ordonnance, donc c'est assez classique.
C'est vrai que le problème de la justice est un problème de moyens. Mais le moyen, ce n'est pas un problème de rapidité. Le moyen, ce sont des humains, ce sont des magistrats, des ordinateurs, du papier, pour pouvoir travailler dans la sérénité.
Je crois avoir lu quelque part, pardon Nathalie Dupont, je vous coupe, qu'il y a à peu près autant de magistrats qu'en 1850, c'est ça ?
Oui, avec au moins 20 fois plus ou 30 fois plus de textes législatifs, de juridictions compétentes dans certains contentieux. Par exemple, à Toulouse, au niveau du droit de la famille, au niveau des affaires familiales, ce contentieux représente 50% du contentieux du tribunal du grande instance et ne compte actuellement que 9 magistrats en poste pour 11 cabinets.
J'ajouterais, la France est la 5e puissance économique mondiale. Elle dépense par an et par habitant 72 euros.
Oui, alors ça, c'est vrai que j'ai...
L'Allemagne et par exemple la Grande-Bretagne dépensent le double. J'allais dire, tout est dit.
C'est-à-dire 146 euros pour l'Allemagne,
exactement.
155 pour le Royaume-Uni et 179 pour le Luxembourg. Nous sommes à la 14e place, selon la Commission européenne, qui a fait un comparatif, mais on a les mêmes sources, j'espère, de l'efficacité, de la qualité, de l'indépendance des systèmes de justice dans les 28 pays membres. Et sur ce qui concerne le budget, nous sommes à la 14e place, à la 24e en sujet des effectifs. 10 juges en France pour 100 000 habitants, donc la moyenne en Europe, c'est 21 juges et pour 100 000 habitants. Et nous sommes à la 20e pour les avocats, ce qui n'est pas brillant non plus, puisqu'il y a 94 avocats pour 100 000 habitants, là où il y en a, alors là, c'est peut-être un peu beaucoup, 368 en Italie, 202 en Allemagne et 291 en
régime.
Espagne.
En plus, ce n'est pas le même régime. Alors, là, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Mais c'est quand même, est-ce que c'est consternant que, soi-disant, le pays des droits de l'homme, qui a inventé la Déclaration universelle des droits de l'homme, se situe aussi bas et ait aussi peu de considération vis-à-vis de la justice et de l'accès aux droits. C'est consternant et ça continue. Ça fait 30 ans qu'on nous sert la même soupe, 30 ans qu'on nous dit en gros qu'on va donner des moyens mais qu'on ne donne pas de moyens et 30 ans qu'on essaye en gros de sortir le justiciable des tribunaux parce que c'est bien là en fait l'enjeu de cette réforme, c'est de sortir le justiciable et donc évidemment les avocats, mais également les magistrats, les greffiers, des tribunaux pour déjudiciariser effectivement un maximum de contentieux, donner ça à des entreprises privées, c'est probablement scandaleux. Et sur le volet pénal, on va peut-être laisser la parole à Pierre Dunac, il y a vraiment des choses qui sont gravissimes dans le cadre du droit de la défense et des droits des victimes.
Est-ce que c'est une conception purement libérale de la justice ou...
Moi, je
à l'anglo-saxon, un peu.
La France, c'est peut-être la start-up nation, mais la justice, c'est pas une start-up, quoi. La justice, c'est rendue par des hommes et des femmes, avec des avocats, avec des victimes, avec des prévenus, et c'est pas réglé par un simple algorithme. Donc, on peut pas régler ça d'un coup de baguette magique en mettant un algorithme sur un problème. Il y a des gens derrière, il y a des vies derrière. C'est aussi important que la santé, c'est une mission aussi importante que la santé. Et là, visiblement, le gouvernement ne veut pas, effectivement, investir dans cette mission.
Oui, c'est ça le problème, c'est que comme il veut pas mettre les moyens, il veut pas y mettre de l'argent, ben, finalement, on va prendre une autre solution qui est de se retourner vers le privé. Bon, on ne construit plus des prisons, on les fait construire par M. Bouygues, par exemple. C'est un peu le même état d'esprit. Donc, c'est une vision libérale de la justice.
Oui, et j'allais dire en plus discriminatoire, parce que on essaye de coller une rustine qui s'appelle le numérique sur une misère judiciaire. Alors que tout n'est pas égaux devant le numérique. Il y a des gens qui peuvent manier très facilement le numérique, d'autres beaucoup moins. Il existe encore des déserts numériques. Que le gouvernement, d'ailleurs, s'intéresse aux déserts numériques.
Vous savez, en matière fiscale, on parlait que c'est aussi une spécialité des avocats. De remplir sa déclaration dite 2042 sur informatique, pour beaucoup, pour les gens âgés, pour ceux qui la campagnent. Vous allez, par exemple, sur les causes du Lot, que je connais bien, il n'y a rien qui passe là-bas, hein. Donc c'est un véritable désert numérique aussi. Ça s'étend à beaucoup plus que la justice.
Oui, ça te va. Au-delà de ça, je pense que on essaye en fait de faire croire que ça va aller plus vite, mais peut-être, mais ça sera moins bien. Et la qualité sera, à mon avis, absolument pas au rendez-vous. On aura des jugements au rabais. On aura une justice au rabais.
Bon, alors on a la chance d'avoir un pénaliste, Pierre Dunac. Cette réforme, qu'est-ce que ça nous promet au niveau du pénal ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ?
Pas grand-chose d'extraordinaire, mais peut-être pour compléter le propos qui a été tenu, je crois qu'on est sur cette idée assez simpliste qu'on entend au Café du Commerce, selon laquelle si la justice est lente, c'est parce que les procédures sont compliquées.
On dit toujours c'est les avocats, parce qu'il y a toujours des renvois, ils sont jamais prêts, etc. Ils ont bon dos.
Et puis c'est très compliqué, et puis on peut obtenir des nullités pour une virgule qui serait mal placée. Enfin, tout ceci, ce sont des idées très très simplistes, véhiculées encore une fois au Café du Commerce, mais la réalité c'est que la justice est lente, parce que la justice n'a pas de moyens. On parle d'une justice libérale. Je sais pas si la justice anglo-saxonne peut être qualifiée de libérale. Toujours est-il qu'elle a bien plus de moyens que nous n'en avons aujourd'hui dans notre pays, ce qui est tout de même lamentable. On nous promet désormais, et par la voie de ce que l'on appelle la simplification, et encore une fois, je crois qu'on confond simplification et simplisme, de passer finalement du commissariat à la prison avec le moins de temps possible devant une juridiction. On a une justice et un projet de réforme qui est élaboré par le ministère de l'Intérieur essentiellement. Alors, les avocats ne sont pas contre l'efficacité de la police. Bien sûr que non, parce que l'avocat, comme tout un chacun, est d'abord un citoyen. Et on est nous-mêmes aussi soumis, comme tous les autres, à quelques exactions. Parfois, on est aussi parfois victime de ces exactions. Mais que l'on ne soit pas contre l'efficacité policière, ce n'est pas pour autant que l'on peut décider demain que la police, quels que soient les moyens que l'on lui donne, ne sera pas sous le contrôle d'un juge indépendant, qui permette aux citoyens d'être garantis contre bien les abus ou les erreurs, ne serait-ce que les erreurs, parce que nul n'est infaillible, et même le meilleur policier n'est pas à l'abri de commettre quelques erreurs. Il convient qu'on puisse avoir un contrôle pertinent, efficace, qui nous garantisse nos libertés individuelles. Et cela ne peut se faire en dehors de la présence d'un juge et d'un juge indépendant. C'est le procès équitable qui, aujourd'hui, dans notre pays, est en jeu par le biais de ce projet de réforme.
En matière de dérapage policier, si on suit un peu de l'actualité, dont le procès de Tarnac, on s'aperçoit quand même que si on n'écoute qu'une voix, celle de la police, ça peut nous amener dans des impasses très rapidement.
Oui, mais c'est au quotidien. Et puis, j'allais dire, c'est dans la nature humaine. Dès lors que vous avez de plus en plus de latitude, eh bien, vous allez au bout de ce qu'on vous autorise, et peut-être parfois un petit peu au-delà. Et surtout, si vous savez que le contrôle sera pas inexistant, mais peut-être très très léger ou très très éloigné. On vit ça aujourd'hui dans des procédures qui sont déjà actuelles, avec des interventions qui sont des interventions musclées, parce que dans ce climat qui est un climat un peu délétère que nous imposent bien certains terroristes, on est prêt aujourd'hui à admettre que la police aurait tous les droits.
Je veux dire qu'on est prêt à sacrifier de la liberté au profit d'une sécurité peut-être un peu illusoire.
Mais bien sûr, on sacrifie nos libertés individuelles sur l'autel d'un climat sécuritaire. Mais on voit bien que, quelles que soient les libertés sur lesquelles nous allons céder, pour autant, on ne sera jamais complètement en sécurité.
On ne sera jamais en sécurité, c'est pas possible.
Bien sûr que non.
Alors on peut rentrer un peu dans le détail, puisque là on a dit un peu tout le mal qu'on en pensait, bon, avec des exemples très pratiques. Alors le pénaliste avait la parole, on va la lui laisser. Au niveau du pénal, très concrètement, qu'est-ce qu'il nous propose ? Qu'est-ce que le gouvernement veut mettre en place ?
Alors on nous propose des simplifications à plusieurs niveaux. D'abord, des simplifications de l'enquête. Et ça, c'est la demande qui est faite, une demande pressante qui est faite par la police. Et à cet égard, par exemple, on nous propose que désormais, la garde à vue soit de 48 heures sans que le prolongement de 24 à 48 heures ne soit contrôlé par un magistrat. Parce que finalement, on dit, oh, ce contrôle, vous savez, bien, c'est quasi systématique, le parquet autorise. Effectivement, on va simplifier le travail du parquet. Donc, on aura besoin peut-être de moins de magistrats.
Qu'est-ce
on va
qu'on dit le parquet simplifier. Qu'est-ce qu'en pense le parquet ? Écoute, ils sont d'accord là-dessus ?
Je crois qu'à cet égard, il faudrait interroger les magistrats du parquet.
Ah bon, on ira le faire. Pierre-Yves Couillot doit venir nous rejoindre un jour prochain. Donc, on va aller d'entre procureur, on va lui poser la question.
Ah oui, je crois que d'aucuns sont d'accord. Mais moi, ce que je dis, c'est que à partir du moment où on a plus de pouvoir, eh bien, il faut aussi qu'on assume un peu plus de responsabilité. Le jour où on aura des magistrats du parquet qui seront des magistrats indépendants, eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra discuter de l'extension des pouvoirs qui leur est conférés.
Pierre Dulin, qu'est-ce que ça veut dire un magistrat indépendant ? Ça veut dire qu'ils ne le sont pas aujourd'hui ? Ça veut dire qu'ils seraient aux ordres ? Et aux ordres de qui, si c'est le cas ?
Ah ben aujourd'hui, clairement, le ministère public n'est pas un ordre de la magistrature indépendant, bien sûr.
Sur le papier, oui, mais est-ce que vous pensez que le procureur est aux ordres, là, aujourd'hui, que ce n'est qu'une courroie de transmission ? Est-ce que c'est ça qui est la réalité ? C'est pas ce qu'il m'a dit ici. Je vous le pose la question parce que j'ai fait une émission avec Pierre-Yves Couillot il y a quelques temps de ça. Je l'ai posé directement cette question. Est-ce que vous êtes un magistrat indépendant ? Est-ce que vous vous sentez comme indépendant ? Ou est-ce que vous, pas systématiquement, mais est-ce que vous, ou vous vous auto-censurez ou vous répondez à certains ordres ? Ça a été une dénégation absolue. Je suis un magistrat indépendant. Je n'ai jamais exécuté d'instruction et je fais comme je pense devoir faire en ma conscience de magistrat.
Oui,
c'est sa réponse.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs, mais quand bien même serait-ce le cas, pensez-vous qui vous le dirait ?
je ne sais pas, le micro ne permet pas la confession.
Éric Boyadjian. La justice, c'est considéré comme une autorité judiciaire et pas un pouvoir judiciaire. Déjà, dans la Constitution, il y a une ambiguïté qui est laissée au libre arbitre, j'allais dire, du législateur. Donc, comme le souligne justement Pierre Dunac, sur l'indépendance du parquet, effectivement, on peut émettre de nombreuses réserves. Et je crois qu'il y a eu un arrêt, je crois, il me semble-t-il, de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, sur, effectivement, l'absence d'indépendance du parquet. Mais on peut également s'interroger sur qu'est-ce qu'un magistrat du siège en France, qu'est-ce qu'il représente, si ce n'est une autorité judiciaire et non pas un pouvoir judiciaire, au sens de la Constitution. Donc c'est un vrai débat aussi, plus
Vous
largement.
Que les magistrats du siège sont plus indépendants ?
Moi, j'en suis pas sûr, en fait. Je pense qu'il y a un pouvoir hiérarchique qui est quand même très important.
Il y a quand même un pouvoir hiérarchique, il y a une carrière pour certains, j'imagine, on ne sait rien.
Dans le principe, ils le sont.
Oui, dans le principe, on est d'accord. Sur les principes, pas de souci.
Ce qui m'importe surtout, ce sont les principes. Ensuite,
ça commence par là, on va dire.
Ça commence par là. Ensuite, évidemment, on trouvera des gens pour l'être plus ou moins. Enfin, il n'y a pas de système totalement parfait, mais dans le principe, ils le sont. Alors que les magistrats du parquet ne le sont pas.
C'est vrai qu'il y a plus de fragilité de ce côté-là.
Oui. Donc, commençons par avoir un ministère public qui soit un ministère public indépendant. Et à partir de ce moment-là, on pourra lui conférer un certain nombre de pouvoirs, de possibilités accrues, à condition que l'on préserve de notre côté, et si on veut être dans un système que vous nommiez totalement libéral, eh bien, l'égalité des armes, et donc la possibilité aussi pour la défense du citoyen que de s'exprimer de la même manière, avec les mêmes moyens. Aujourd'hui, on est dans une volonté... peut-être pas de restreindre les droits de la défense, c'est peut-être pas la volonté, mais c'est en tout cas la conséquence de l'extension des pouvoirs que l'on souhaite donner au ministère public et à la police, sans contrepartie aucune qui ne soit proposée à aucun moment dans le cadre de ce processus dit de simplification.
On fait une première pause pour laisser souffler, puis après on va revenir un peu dans le détail, parce que je crois que ce qui est important, c'est d'être factuel. Première pause musicale. Alors, moi, j'ai choisi un rappeur, on n'entend pas souvent ici. Il s'appelle Elams, je ne sais pas si vous le connaissez. Et il chante Un bon avocat.
Ah, ben, c'est circonstance.
Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi.
Ouais, 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 ouais,
never forget.
Ouais, 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 ouais. Elams, stand la marine, est-ce que tu connais? Appelle-moi Brandon, appelle la Brenda. Y'aura pas de wesh mon gars, mais des welcome. Chez nous on raquette comme Joe Wilfried Tsonga. Les meufs ils les chantent mais le garçon. Du huc, des trucs du huc, voilà ce que les gars sont. Mais bon passons, j'ai dansé sur du pisseau. La musique c'est ma passion. J'ai arrêté l'alcool parce qu'on m'a dit au paradis y'a un ruisseau. La salade sur de la bonne pelouse tendue au lieu des buissons. L'œil des gens tu peux pas savoir comment c'est puissant. Juste de t'en parler j'en ai les frissons. Quand je repense à tous ces frères en prison, ceux qui n'ont pas dit non. Quand l'officier a dit poucave, il a dit non. C'est un coup, t'es pas sur 10 ans, mais 10 ans que la juge pourrait se montrer exigeante. J'suis dans le bloc là, j'veux rouler en loque, mener la vie d'aloca. Les schmitts nous stoppent, les biprins, bon avocat. J'suis dans le bloc là, j'veux rouler en loque, mener la vie d'aloca. Les chevilles nous stoppent, bébé prends un bon avocat. Je veux vivre en harmonie dans l'armoire. Je veux juste de l'harmonie. Mon rap c'est de l'harmonie. Hobby, je t'habillerai chez Céline ou Givenchy. Vini, Vigi, Vigi, je te ferai du piano si tu apprécies. Quitter la Tessie c'est difficile dans le ghetto. Le mental c'est difficile. Fissa et Philemon, c'est dur là. Faut qu'on file les man, faut qu'on pète le nez man. La street on y est collé comme des aimants. Je suis héritier, mon sang va hériter. Je vais leur filer l'eczéma, faut que je sois vive comme Benzema. En Mercedes, Benz et moi, j'ai des frères en examen. J'ai la boco et du coup fais-en un. Je suis instable, intenable. Comme à l'école, insupportable, inabordable. Je fumerais quelqu'un pote aussi on me donnait le port d'armes. Ouais ben, je suis dans le bloc là. Je veux rouler en orgue, mener la vie d'aloca. Les chevilles nous stoppent, bébé prends un bon avocat. J'suis dans le bloc là, j'veux rouler en loque, mener la vie d'aloca. Les chevilles nous stoppent, bébé prends un bon avocat. 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 J'suis dans le bloc là, j'veux rouler en loque, mener la vie d'aloca. Les chevilles nous stoppent, bébé prends un bon avocat. J'suis dans le bloc là, j'veux rouler en loque, mener la vie d'aloca. Les chevilles nous stoppent, bébé prends un bon avocat. 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 We'll be right back.
Voilà, Elams qui nous chantait un bon avocat, et des bons avocats, il en a trois autour de la table ce soir. Et nous étions plongés dans les réformes, notamment au niveau pénal, puisque le niveau pénal, ça touche quand même nos libertés publiques. Et quand on nous dit on va augmenter les pouvoirs de la police, les pouvoirs du parquet, on frémit quand même un peu et on se demande où va notre démocratie. Alors Pierre Dunac, le pénaliste de l'équipe, alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on...
Rien, j'espère.
Rien, mais bon, qu'est-ce qu'il pourrait se passer si les avocats et les juges ne combattent pas ?
Alors, on nous annonçait un certain nombre de choses, de modifications, notamment, on évoquait tout à l'heure cette possibilité de ne pas avoir de contrôle de magistrat sur la garde à vue, ce qui est gravissime. Hein, puisque,
ça veut dire qu'on revient en arrière, parce qu'on a obtenu qu'il y ait l'avocat à la 21 heure, et puis maintenant qu'il soit présent dans toutes les phases de la garde à vue. Mmh. Et aujourd'hui, on revient en arrière en disant on va écarter les magistrats. Ça veut dire aussi que peut-être un jour, on va réécarter les avocats.
Mais peut-être, si on estime que le coût de cette présence est excessif, peut-être voudra-t-on l'écarter. Moi, cette réforme, je la vois ainsi. Hein. C'est simplement une volonté de réduire des coûts. Je ne sais pas d'ailleurs qui a apprécié de ces coûts-là. On parlait également du tribunal criminel départemental. Donc là, on crée une nouvelle juridiction.
Oui, alors ça, c'est une nouvelle juridiction. Ça sera une sous-cour d'assises ?
Je sais pas trop. Je me demande d'ailleurs si cette annonce qui a été faite comme ça, un peu au débotté, sans qu'elle n'ait participé de la concertation préalable, ou en tout cas de petite concertation préalable.
Est-ce qu'il y en a eu une concertation préalable ? Non, il n'y en a pas eu, Eric Boyajian.
Sur le tribunal criminel, ça c'est sûr qu'il n'y a pas eu de concertation préalable. Ce projet il est sorti du chapeau, hein, directement sans qu'il y ait de concertation. Moi, sur le tribunal criminel, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le principal objectif pour le gouvernement, c'est de faire des économies. Mais est-ce que juger des crimes et délits, ça nécessite de faire des économies ? Enfin, des crimes, pour être plus précis, parce qu'on est devant la cour d'assises.
C'est un problème.
Lorsqu'on parle de viol, lorsqu'on parle effectivement de meurtre, d'homicide, de braquage de banque, est-ce qu'on a besoin de faire des économies ? Est-ce que la justice a besoin de faire des économies sur des choses qui sont aussi graves et qui ont des conséquences lourdes, puisqu'on envoie des gens en prison pendant 10, 20 voire 30 ans. Donc, et on parle vraiment de liberté pour le coup, là, et droit de la défense.
Est-ce que c'est un problème peut-être plus général qu'on est en train de nous faire dans tous les secteurs, c'est-à-dire que le service public, finalement, doit être rentable, ce qui est deux notions complètement antinomiques. Qu'on l'optimise, c'est une chose, qu'on le rentabilise, c'est tout à fait autre chose. Et on est en train un peu de nous dire ça pour la justice.
Mais d'ailleurs, on n'est pas du tout dans le sens de l'optimisation avec la création de ce tribunal criminel départemental. On dit que ça sera bien plus rapide qu'un procès de cour d'assises. Un procès de cour d'assises, c'est pas très très long. Mais si on voulait véritablement optimiser le procès de cour d'assises et le jugement de quelques infractions nature criminelle, bon nombre de crimes ont été reconnus par leurs auteurs. Et en fait, le procès de cour d'assises ne réside plus sur la détermination de la culpabilité de la personne. Il a reconnu, il vient devant la cour d'assises, il continue à reconnaître les faits. Tout le monde est d'accord sur qui est l'auteur des faits qui sont poursuivis.
Ah, pas toujours, quand même.
Non, mais pas toujours.
Il y a des questions, on m'a tué ou d'autres.
Oui, je ne suis pas en train de dire, je ne dis pas toujours, je dis bon nombre de dossiers qui viennent devant les cours d'assises sont des dossiers qui sont reconnus par l'auteur qui est poursuivi. Si on voulait aller dans le sens de l'optimisation, on pourrait très bien imaginer une forme de procédure qui existe pour les délits, qui est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ça existe pour les délits. On pourrait très bien l'envisager pour les crimes, à condition que l'on se garantisse d'une discussion et d'un espace de discussion sur la peine adaptée, à savoir une analyse de la personnalité. Et on pourrait très bien faire ça. Et on serait dans l'optimisation. On éviterait le procès de cour d'assises par le biais de ces procédures, à condition, évidemment, qu'on ait quelques garanties de droit de la défense augmentées. Mais ce serait très facile à faire. Ce serait moins onéreux. Et les gens seraient garantie d'avoir d'abord une bonne défense, d'avoir une peine adaptée, et on y perdrait moins de temps. Là, on nous propose... Je trouve qu'on est fallacieux dans la démonstration. On nous propose un tribunal criminel dont on nous dit, ben finalement, ça va aller plus vite, mais ça n'ira pas plus vite. Parce que imaginons que vous soyez poursuivi pour des coups mortels. Des violences volontaires sans intention de la donner, 15 ans. Donc on nous dit que pour les crimes qui seraient poursuivis de ces peines-là, 15 ans, eh bien on passerait devant ce tribunal. Mais sauf que vous arrivez devant ce tribunal et puis lors des débats, on va s'apercevoir que cette personne, en réalité, elle avait l'intention de donner la mort. Alors on va faire quoi ? On va ensuite renvoyer devant une cour d'assises. Donc on va doubler la procédure, on va encore doubler la longueur de la procédure. C'est pas réfléchi, j'ai l'impression que c'est pas réfléchi. On s'est dit simplement, nous allons éviter des jurés. Un juré, c'est 85 euros par jour. Donc 85 euros par jour sur une cour d'assises, vous en avez au moins 6, mais il y a toujours un juré remplaçant, voire 2, un juré supplémentaire. Donc ça fait quoi ? Ça fait 600 euros par jour, et on va économiser 600 euros par jour, ou 680 euros par jour. C'est ça, cette réforme.
Mais si c'est que ça, c'est pitoyable.
Mais
c'est consternant.
Oui,
mais personne n'y voit d'intérêt. Personne n'y voit d'intérêt. J'ai pas entendu un magistrat, ni même un procureur, se lever pour dire mais cette idée est extraordinaire et elle va nous simplifier la vie.
Alors si personne n'en veut, ça va passer ou pas ?
Ben, l'intérêt de la mobilisation des avocats, justement, c'est de faire réfléchir le gouvernement sur ces points-là. Hein.
Est-ce que vous pensez que le public perçoit bien ce message ? Parce qu'on le voit, là, ce sont des explications relativement techniques. Est-ce que les gens, comme dit un certain, comprennent bien quel est l'enjeu, notamment au niveau du pénal ? On va venir sur le civil tout à l'heure. Nathalie Dupont-Ricard.
Oui, non, restons sur le pénal. Le pénal, c'est aussi des victimes. Ouais. Des victimes qu'on ne peut pas sacrifier, pour lesquelles le temps judiciaire est très important, pour lesquelles le procès pénal est très important pour entendre ce qu'elles ont à dire, notamment sur la culpabilité, mais aussi sur les conséquences de ce qu'elles ont vécu et de la réparation dont elles ont besoin. Et ce projet de loi, sous prétexte d'aller plus vite, voudrait aussi sacrifier les intérêts de la victime, c'est-à-dire, par exemple, si le magistrat décide qu'elle est suffisamment informée de la date d'audience sur le procès pénal, ce magistrat, et que la victime n'est pas là, ce magistrat peut décider de renvoyer uniquement sur les dommages et intérêts, c'est-à-dire sur les intérêts civils, sans que la victime soit véritablement présente, pour dire voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai vécu. Ce qui est tout à fait antinomique avec ce que nous vend Madame la secrétaire d'État Schiappa sur les violences sexistes en disant on va donner des condamnations immédiates aux délinquants du métro en le condamnant par une amende, ce qui est totalement antinomique avec le respect des droits de la victime.
Oui, puis de toute façon, là, sur ce texte particulièrement, on pourrait y revenir, c'est pas le sujet, mais enfin, on se demande comment ça va pratiquement fonctionner et quelle efficacité ça pourra avoir. Quand on écoute les policiers en parler, tout le monde se gratte la tête quand même. Hein.
C'est une autre question.
Alors, on parlait tout à l'heure, pendant le passage de notre rappeur, on parlait hors micro d'autres modifications potentielles, et notamment, vous parliez tout à l'heure, Éric Boyadjian, de ces...
Le développement des plateformes.
Hein, voilà, je ne sais pas ce que c'est trop une plateforme, mais...
Alors, en matière civile, expliquez-nous. Là, on oublie le pénal.
On l'oublie pas, mais bon...
on le met de côté pour quelques instants. En matière civile, ce qui coûte cher, c'est de donner du temps judiciaire aux citoyens, aux justiciables. Ce projet imagine que, par exemple, pour les traitements des pensions alimentaires, des émoluments dus par un parent à l'autre parent quand les enfants ne sont pas à sa charge, eh bien, on remplirait un dossier sur Internet, dossier qui serait traité par certaines administrations,
la CAF
pour ne pas la nommer, qui est en voie de recrutement d'auxiliaires en ce moment de manière flagrante. Et voilà, on examine des chiffres, des pièces, et badaboum, on vous sort une pension alimentaire du chapeau. On va aussi mettre en place, ce projet veut mettre en place, des plateformes en ligne pour le traitement des ordonnances d'injonction de payer. Alors, c'est un peu technique, hein, c'est un peu difficile à comprendre, mais Quand un créancier n'arrive pas à se faire payer, il peut déposer un dossier au tribunal et si le débiteur ne fait pas de contestation, ce dossier se transforme en un jugement qu'il faudra faire exécuter par voie d'huissier. Là, pareil, vous remplissez en ligne une demande avec toutes les difficultés techniques que ça peut avoir, vous l'avez dit, au fin fond du Lot, mais également au centre-ville de Toulouse, pour que ce dossier soit informatiquement traité. C'est fini, plus d'accès à lui-même, plus d'accès aux garanties qui sont celles d'un simple citoyen d'avoir accès à son juge. Alors, nous, avocats, on était mis en garde sur le traitement de la justice et la suppression des lieux de justice avec le fait que certains tribunaux allaient fermer et que donc il allait être encore plus difficile d'avoir accès à un magistrat pour le citoyen. Mais on n'avait pas, on ne nous a pas mis en avant ces difficultés et ces projet, ce projet qui est véritablement insidieux et qui n'est pas frontal. Il n'y a pas eu de concertation. Madame Belloubet, j'aime beaucoup parce qu'elle a été à Toulouse pendant longtemps, mais en fait...
Oh, c'est pas une raison pour l'aimer. Hein.
C'est déjà un bon point. Elle nous sert une soupe en nous faisant croire que sur les, par exemple, les ventes immobilières, elle va reculer sur, par rapport au projet initial qu'elle avait dans son enveloppe, mais c'est pas de la concertation, ça.
Ce qu'on peut rajouter,
Éric Boyer,
c'est que c'est l'effet très pervers de cette réforme, c'est qu'on nous dit, mais de toute façon, il n'y aura pas de fermeture de lieu de justice, ne vous inquiétez pas. Et le tribunal d'instance, même s'il ne s'appelle plus le tribunal d'instance, il y aura, ce lieu de justice sera maintenu, mais de facto, on va sortir du contentieux du traitement judiciaire. Et donc, au bout, à mon avis, de 2 ou 3 ans, on va nous dire, attendez, ce tribunal d'instance, en fait, il ne rend plus de dossier. Il ne traite plus de dossiers, il ne traite plus d'affaires.
Oui, parce que ça, vous faites.
On va le fermer, c'est obligé. Ouais. Parce qu'effectivement, puisqu'on a dématérialisé et qu'on a déjudiciarisé un certain nombre de contentieux, on va vous dire au bout de 2-3 ans, ben, concrètement, soyons logiques, il n'y a plus de dossiers traités, il n'y a plus d'affaires qui sont jugées, on va donc fermer ce justice. Donc j'allais dire, c'est là où c'est très pervers, hein, c'est là où la réforme est très perverse, parce qu'effectivement, on vous dit sur le papier, ok, il n'y a pas de fermeture de lieu de justice, mais d'un autre côté, eh bien, effectivement, on sort...
Vous faites allusion à cette partie de la réforme qui veut que les tribunaux d'instance soient fondus, si j'ai bien compris,
oui,
dans les tribunaux de grande instance.
J'allais dire ça, c'est du ravalement de façade, c'est pas très important en soi, c'est-à-dire de dire qu'effectivement, il n'y a qu'un seul tribunal qui soit départemental, j'allais dire, et qui traite à la fois du contentieux du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance. Moi, j'y vois pas, si vous voulez, un danger imminent pour le justiciable. Ce qui est grave, en fait, c'est de sortir le contentieux de ces lieux de justice. Qu'on appelle ça un tribunal d'instance ou un tribunal de première instance, j'allais dire, peu m'importe. C'est juste que là, on dématérialise à outrance les procédures. Sachez quand même que si le magistrat l'estime, il n'y aura même pas d'audience. Même si,
beaucoup de magistrats.
Oui, mais même si, c'est quoi un petit litige en fait, au bout du compte ? Est-ce que c'est forcément d'ailleurs un litige de moins de 5 000 euros ? Est-ce que des troubles de voisinage, par exemple, c'est un petit litige ? Quand on sait la subjectivité de ce type de problème, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être entendu par un juge ? Eh ben, dans la réforme, les troubles de voisinage, c'est un petit litige, donc on va rendre ça grâce à un petit algorithme, d'ailleurs, et on vous dira, écoutez, ça coûte. 4 000 euros, ça coûte 2 000 euros de dommages d'intérêt, ça coûte 450 euros d'article 700 pour entrer dans le technique. C'est ça, en fait, ce qui nous attend. C'est-à-dire, c'est une justice déshumanisée, rendue, en gros, par des robots, et de temps en temps, avec un contrôle, j'allais dire, à minima, d'un magistrat ou d'un parquetier, pour faire bonne figure.
Est-ce qu'elle n'est pas déjà déshumanisée, cette justice, quand on voit, par exemple, les comparutions directes, où c'est un peu... de l'abattage hein, dans certaines juridictions. Est-ce que ce n'est pas déjà déshumanisé ? Est-ce que les juges ont le temps, alors c'est peut-être le pénaliste qui va nous répondre, est-ce que les juges ont le temps de se pencher sur leur dossier, Éric ? Pierre, pardon, je ne sais pas pourquoi je l'ai rebaptisé, Éric. Ouais, voilà.
Éric est à...
Voilà, Éric, c'est notre vice-bâtonnier.
Bien sûr que les magistrats ont peu de temps, notamment sur ces audiences de comparution immédiate. Mais à la fois, ils ont quand même bien conscience de ce que ces dossiers sont traités dans une urgence particulière. Et je crois que bon nombre de magistrats ont tout de même la volonté de bien faire leur travail, même dans ce cadre-là. J'allais dire, ce qui est un peu gênant, c'est que, parce que ce sont des gens consciencieux, ils feraient ce travail, quelles que soient les conditions qu'on leur propose. Et que, ils sont pas suffisamment révoltés. Ils devraient d'ailleurs se révolter davantage parce que, ils travaillent dans des conditions qui sont inacceptables. En tout cas, inacceptables.
Et les magistrats et les greffiers. On va recevoir bientôt, les patronnes du greffe de Toulouse. Je les attends au mois d'avril. Là, on va un peu parler de ce qui est la colonne vertébrale de la justice. On voit toujours les magistrats, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Voilà.
Mais tout le monde
c'est pour ça qu'elles vont venir nous expliquer. Je dis elles parce que ce sont deux dames. Elles vont venir nous expliquer ce genre de choses.
Mais tout le monde travaille dans les palais de justice, dans des conditions qui sont des conditions inacceptables. Que ce soit les magistrats, les greffiers, mais également les avocats. On travaille tous dans des conditions d'urgence inacceptables que l'on accepte parce que on a un certain nombre de principes, parce qu'on a des vocations, mais contre lesquelles on devrait s'élever tous les jours.
C'est vraiment une vocation d'être avocat, oui. Sans la foi, on a du mal à tenir dans ce métier.
Écoutez, c'est un métier qui doit, en tout cas, pour ma part, prend à peu près 90% de mon temps. Si je l'aimais pas, il est tellement chronophage que je pense que je ferais autre chose, oui.
Au-delà, je pense que c'est une vraie responsabilité. Il ne faut pas oublier que l'avocat, c'est quand même le pilier de la démocratie, quelle que soit la matière qu'il fait, j'allais dire. En faisant du pénal, bien évidemment, mais en faisant également du droit social, en faisant du droit fiscal, en faisant du droit de la famille, en faisant du droit des sociétés. Genre, s'il n'y a pas d'avocat pour s'opposer à des injustices ou pour contester un certain nombre de faits qui ne vous paraissent pas opportuns ou injustes, ben, qui va le faire ? Donc, ça va au-delà.
Regardez les statistiques d'Amnesty International pour voir que dans certains pays, les premiers qui sont tapés sont les avocats.
Bien sûr, les avocats, les journalistes, c'est toujours... On sait parfaitement qui en doit taper d'abord pour restreindre effectivement l'accès au droit et à la justice.
Alors avant de tomber dans le noir pessimisme, on va quand même faire une deuxième pause musicale pour proposer un peu aux auditeurs, parce qu'on est quand même très très noir et très pessimiste ce soir. Et je vous propose Manu Larouille, il est à Paris, mais il est parti de Toulouse et il chante « Mec à la cool ».
De la balance entre le guerrier, le poète et le tout made in France. J'ai un mal fou à rester sur une ligne blanche. Entre deux tours, j'ai toujours la tête qui pend. D'un côté, je suis métis. En moi, il y a autant le père que le fils. Parole, je suis tellement attaché à ce lien symbolique. Parole contre parole, je t'explique. Le dernier mot, ma place dans le bateau. Ici, fait pas chaud. Ma part du gâteau, parce qu'il fait froid dans ce ghetto. À la fois précis comme un bisou dans un bordel, et tellement indécis sur elle ou bien sur elle. Sorry, sorry, je reste planté à regarder les gens, à pas savoir comment ils savent tout, tout le temps, tout, tout le temps, tout. Je suis né des deux côtés de la balance, et que pour moi c'est précieux comme une chance, et comme je refuse absolument de m'engluer les deux ailes avec ce doux nectar qu'on appelle consensuel. J'exige
le dernier mot, ma place dans le bateau. Ici fait pas chaud, ma part du gâteau, parce qu'il fait froid dans ce ghetto.
Pour les chanteurs, moi, je suis trop boxon. Alors je fais ma sauce comme je l'entends, à la fois douce et relevée comme un printemps. Comme la vie, elle est parsemée d'embûches, qu'il y a ces abeilles, ces reines qui dominent la ruche. Exige
le dernier mot, ma place dans le bateau. Ici fait pas chaud, parce qu'il fait froid dans ce ghetto. Le dernier mot, ta place dans le bateau. Ici fait pas chaud.
Voilà, c'était Mec à la cool de Manu Larouille. Alors, on revient avec nos avocats qui sont aussi à la cool, hein. Pas trop, mais quand même un peu. Cette justice, alors, vous dites régression des droits de la défense, régression des libertés publiques, c'est quand même grave tout cela, non ? Est-ce que vous pensez que le mouvement des avocats, peut-être soutenu par les magistrats, pensez que vous allez faire reculer, vous allez pouvoir faire amender ce texte ? Parce qu'elle l'a déjà quand même, Mme Belloubet, soumis au Conseil d'État, tout en nous disant, bon, je pourrais faire projet rectificatif, etc. Mais enfin, c'est quand même mal parti.
Nous sommes déterminés à continuer cette grève fermement. Nous sommes bien conscients que pour les magistrats, c'est très difficile à mettre en place et à subir. Mais nous sommes déterminés à faire comprendre à la chancellerie que nous ne reculerons pas.
Mais est-ce que ça va être... Est-ce que la mobilisation est suffisante ? Parce qu'on sait que les barreaux, on n'est pas très bien organisé en France au point de vue des barreaux. Chaque barreau vit un peu sa vie. Est-ce que là, véritablement, on s'est fédéré ? Notre vice-bâtonnier avec Boyadjan, est-ce qu'ils sont fédérés ? Est-ce qu'ils se parlent ? Parce que j'en ai cité trois tout à l'heure de tête. C'était Melun, Auxerre et Béziers qui ont dit, nous, c'est la grève illimitée. Ce n'est pas ce qui a été dit chez les autres. Donc déjà, là, ce n'est pas tout à fait le même régime.
Pour la journée, je crois, des 21 et 22 mars, en tout cas pour la journée du 21 mars, il y avait quasiment la totalité des barreaux en grève, en ce compris le barreau de Paris. C'est pas rien, c'est 25 000 avocats, c'est la moitié. La moitié des avocats en France. Hein. Donc ça veut dire que cette réforme, elle impacte, j'allais dire, à la fois le entre guillemets, sans être péjoratif, le petit barreau d'une vingtaine d'avocats, mais également les grands barreaux comme le sont Paris, Lyon ou Marseille. Parce que cette réforme, elle impacte le judiciaire, c'est-à-dire l'activité judiciaire des avocats, mais elle impacte aussi l'activité juridique des avocats, de par ses plateformes, de par effectivement le développement des algorithmes et de la justice quantitative, elle va forcément impacter également l'activité judiciaire des avocats, juridique des avocats. Donc, elle concerne tous les avocats, quelle que soit leur spécialité et leur mode d'exercice. Et comme l'a dit très bien Nathalie Dupont-Ricard, ces journées de mobilisation, et notamment celle à venir qui est celle du 30 mars, elle est faite en conjointement, et c'est assez rare et inédit pour le dire quand même, hein, avec les magistrats, et les personnels judiciaires, c'est-à-dire les greffiers, mais tout le personnel administratif. Donc là, on a vraiment une unité, j'allais dire, des professions juridiques et judiciaires contre cette réforme et ce qu'elle propose, parce qu'effectivement, elle est liberticide et elle va à l'encontre d'une justice digne pour un pays comme la France.
Mais une grève, bon, c'est une capacité de nuisance finalement. Hein, quand les chauffeurs routiers font grève ou quand les contrôleurs aériens font grève, là de suite ça pèse sur le pays. Est-ce que la grève des avocats, c'est quelque chose qui est suffisant ? Première question. Est-ce que c'est une nuisance suffisante pour faire réfléchir le gouvernement ?
Quand on bloque l'appareil judiciaire, quand on sait le nombre de les délais qu'il y a pour rendre une décision de justice, par exemple à la cour d'appel de Toulouse, les dossiers s'entassent tellement qu'on ne peut même pas, on vous donne même pas de date de plaidoirie. C'est-à-dire, en gros, si votre client vous demande « Est-ce que mon dossier va être plaidé ?» et vous êtes dans l'incapacité de lui dire bah, « Peut-être en 2018, sûrement pas. En 2019, vous avez peut-être une chance. En 2020, sûrement. » Mais on n'a même pas de date d'avis d'audience du greffe. Alors, lorsqu'on bloque effectivement l'appareil judiciaire, comme le font les avocats, et j'allais dire, et surtout au pénal, en fait, hein, parce que c'est bien là que le gouvernement est sourcilleux, quand on bloque l'appareil judiciaire, notamment au pénal, on met en difficulté l'appareil répressif de l'État, on le met en difficulté sur effectivement la célérité des décisions de justice et donc effectivement, j'allais dire, on bloque le système et ça ouvre forcément à la négociation. C'est le but d'une grève.
Le procureur précédent, je ne sais pas, vous me confirmerez ou pas, notamment le pénaliste, m'avait dit la chose suivante. Dans mon parquet, j'ouvre 120 000 dossiers par an. Donc certainement 120 000 procédures. La police, la gendarmerie en résolvent 40 000. La capacité d'absorption du tribunal correctionnel est de 20 000. Est-ce que si vous validez ces chiffres, c'est quand même extrêmement inquiétant, non ?
Oui, mais ça rejoint tout à fait le discours introductif qui était le nôtre, à savoir que la justice n'a pas les moyens. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pas simplifier une procédure en se disant, bon allez, on passe du commissariat à la prison et très très peu par l'étape justice et on aura une justice satisfaisante. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner les moyens à la justice de faire son travail.
Comment l'État peut donner des moyens alors qu'il n'a pas d'argent pour les hôpitaux, qu'il n'a pas d'argent... Enfin, on cherche toujours de l'argent. On cherche toujours un euro pour en faire deux. Alors comment la justice là-dedans peut tirer son épingle du jeu ?
Je pense que c'est un choix politique, hein, tout de même. Il y a dans un pays démocratique un certain nombre de piliers qui fondent notre contrat social, le fait qu'on vive ensemble dans un climat à peu près serein, quand bien même pouvons-nous être sujets parfois à quelques attaques. Hein. Mais sans justice, il n'y a pas de démocratie.
Mais est-on toujours en démocratie ? Les piliers de ce sont effectivement la justice, vous l'avez dit, elle n'est quand même pas très bien. Ce sont la presse et les médias. On sait qu'aujourd'hui, elles sont aux mains de 7, 8, 9 personnes extrêmement fortunées. Il n'y a plus vraiment de médias indépendants ni libres. On va où, là, comme ça ?
Bah, les avocats sont des lanceurs d'alerte, ils sont là pour ça.
Ah, si on est des lanceurs d'alerte, alors c'est bien.
Donc ils sont là pour effectivement informer le justiciable. Et après, il ne faut pas réduire, j'allais dire, les médias et la presse à 8 conglomérats. Il y a également Internet est aussi une chance de diffusion de l'information. Alors bien sûr, toute la prudence qu'on doit mettre par rapport à ça, mais c'est aussi un canal qui est intéressant. Je pense à des journaux comme Mediapart qui développent quand même.
Oui, vous avez Mediapart, vous avez Charlie Hebdo, vous avez le Canard Enchaîné et Alternative Économique. Globalement, j'en ai peut-être oublié un ou deux, je ne veux pas leur faire offense. À part cela, tous les autres sont entre les mains de groupes financiers qui s'en servent comme d'une caisse de résonance à idées et politiques.
Moi, je crois que c'est un véritable choix politique, comme vous dit Pierre Dunac. Le constat, il est le même. On le fait. Alors, moi, je suis avocat depuis 25 ans. Et depuis 25 ans, le constat, il est le même. L'État ne veut pas investir dans cette mission régalienne. Sûrement parce que ça lui fait peur, d'ailleurs. Parce que la justice n'est pas forcément du côté du pouvoir. Parce que la justice, elle se doit d'être indépendante. Et quelque part, ça gêne le pouvoir exécutif.
Regardez par exemple les lois Sarkozy. Bon, il savait peut-être un peu pourquoi il l'avait fait. Il était le premier utilisateur. Mais il a quand même dépénalisé un certain nombre d'infractions financières. Aujourd'hui, l'infraction financière n'existe plus. Elle n'est plus poursuivie.
Je pense, le débat, il va au-delà de ça. Je pense que les avocats, ils sont pas contre la justice, comme l'a dit d'ailleurs Pierre Dunac, le procureur de la République ou le procureur général. Les avocats, ils sont pour une justice digne et juste. Or, on n'a pas les éléments qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer qu'en France, on rend une justice digne et juste. C'est là le combat des avocats, tout simplement.
Est-ce que le public, et je reviens, c'est un peu la question que je vous ai posée tout à l'heure, mais j'y reviens parce qu'elle me semble fondamentale. Est-ce que le public, tout le monde est possiblement justiciable demain au civil, au pénal, prud'homme, etc. Est-ce que les gens se rendent bien compte des enjeux qu'il y a, de la pauvreté de la justice ? Parce que c'est ça, hein, toujours Pierre Dunac le dit. Est-ce que les gens s'en rendent compte ? Est-ce que cette croisade que mènent les avocats et les magistrats qui ont l'air de s'y associer avec le personnel de justice, est-ce que ça va être populaire ? Est-ce que les gens vont être derrière vous ?
Les gens ne se rendent compte des difficultés de la justice que lorsqu'ils y sont confrontés. Le discours, il est très simple. Et notamment s'agissant des infractions et des affaires pénales. Le discours au café du commerce, c'est « mais moi, peu m'importe. Peu m'importe de savoir quels sont les pouvoirs de la police. Quels sont... Parce que moi, je n'ai jamais rien à me reprocher. » Sauf que, parfois, sans même y avoir pensé, on a des choses à se reprocher, ou si on n'en a pas soi-même, le voisin en a à vous reprocher. Et les gens, lorsqu'ils sont confrontés à la justice, là, effectivement, ils se rendent compte des difficultés auxquelles ils sont soumis. Ils se rendent compte de ce que c'est un appareil qui peut vous broyer, de ce que des innocents peuvent être amenés en prison et pendant longtemps. Mais tant qu'ils ne sont pas confrontés, évidemment, ils vivent ça de très très loin en se disant...
C'est comme l'accident de la route, quoi. C'est un peu c'est de la justice pour les autres.
Oui, mais bien sûr, c'est la justice pour les autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Et ce que l'on ne souhaite pas, c'est que la justice se transforme, et c'est un petit peu l'objet de cette loi de programmation et de simplification, en simple bras armé de... la police qui est sur le devant de la scène depuis un certain temps et en mesure de réclamer des moyens.
Éric Boyadjian.
Au civil, j'ajouterais qu'il y a un vrai danger de privatisation de la justice, confiée à des plateformes qui soi-disant vous permettraient de saisir un juge en ligne. Il y a aussi des vraies questions sur la protection des données. sur la confidentialité, sur le secret professionnel. Ces questions-là ne sont pas résolues par le projet de loi. Quid du secret professionnel qui est garanti par l'avocat ? On ne sait pas. Quid de la protection des données, de ce que vous allez mettre effectivement sur votre saisine ? On ne sait pas. Quid effectivement de la confidentialité également des échanges, si on arrive ou pas à une médiation, on ne sait pas. Donc on n'a aucune garantie en fait sur ce projet de loi, notamment par rapport à la dématérialisation. Ce qu'on nous dit en gros, c'est que le numérique doit, remplacer le juge. Le numérique, c'est un facilitateur, c'est un accessoire.
C'est un outil.
C'est un outil, ça ne peut pas être l'élément déterminant qui permet de rendre la justice. Et ça, je pense que le combat des avocats et des magistrats et des greffiers, c'est celui-là. Et aussi, c'est aussi le combat de l'opinion publique, c'est-à-dire on ne peut pas confier des choses aussi importantes que de rendre la justice à des simples algorithmes ou des robots.
On a déjà bien quand même renié les libertés publiques, souvenez-vous, ce n'est pas si vieux, c'est même très récent, cette modification, l'article 16 qui est un peu rentré dans nos mœurs, qui était une exception, qui est devenue aujourd'hui l'ordinaire. Ça n'a pas fait lever les foules pour autant. Pourtant, Dieu sait que beaucoup s'en sont, notamment à cette antenne et à ce micro, on en a beaucoup fait parler, on a un peu expliqué où on allait. Ça n'agite pas beaucoup les gens, ça finit par passer comme une lettre à la poste. Est-ce que les gens ne sont pas un peu assommés par... Ils n'ont pas baissé les bras un peu ? Non, vos clients, là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ont envie de vous soutenir ? Ils sont combatifs pour que leurs droits soient respectés ou pas ? Vous leur en parlez à vos clients de ça ?
Bien sûr.
Nathalie Dupont-Ricard.
Nous assumons, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, depuis mercredi dernier, tous les renvois devant les juridictions pour l'ensemble de nos confrères.
Oui, ça sera une réduction. Mais est-ce que les clients, chaque avocat va expliquer à son client pourquoi il est en grève ?
Nous rencontrons les clients de nos confrères et à qui nous réexpliquons, parce que ça leur a déjà été expliqué dans le cadre de leur entretien avec leur avocat, pourquoi nous faisons cette grève ? Effectivement, l'actualité fait que peut-être entre la SNCF et des événements tragiques qu'il y a eu ces derniers jours, notre discours est difficile à entendre. Et puis, c'est une réforme très technique. Donc, c'est peut-être difficile à appréhender pour quelqu'un qui n'est pas confronté directement au problème. Mais notre moyen, qui est la grève, est soutenu par d'autres professionnels de la justice. Et nous espérons quand même pouvoir être entendus par Mme Belloubet et ses services.
Écoutez, on va l'espérer. Vous avez quelques conseils de lecture, là, si on veut prolonger ça et comprendre un peu. Non, vous n'avez pas réfléchi. Vous avez dit de réfléchir à quelques livres.
Voilà. Si vous avez envie de connaître la vie d'un avocat et les raisons pour qu'elle existe, lisez le dernier livre d'Henri Leclerc. Je pense que ça vous éclairera ça vous éclairera sur ce qu'est un avocat, ce qu'il doit faire et ce pourquoi il se bat.
Alors, il y a aussi un de nos confrères qui est un peu plus médiatique, qui s'appelle Dupont-Moretti aussi.
Également.
Qui a écrit quand même quelques livres où, l'homme est direct, hein, il ne mâche pas ses mots, il dit des choses. Je ne sais pas si c'est un pénaliste. Pierre Dunac, vous recommandez aussi la lecture de Moretti ?
Oui, bien sûr. Mais tout...
Ce projet, on peut le trouver sur Internet, le projet de Mme Belloubet ?
Oui, tout à fait, on le trouve sur Internet. Alors évidemment, ce projet, il s'adresse... Je ne sais pas s'il est lisible pour un quidam ou...
Quelqu'un qui n'a pas fait de droit,
c'est un peu... Je pense que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai envie de dire il est compliqué à souhait.
Volontairement parce que...
Oui, le diable se cache dans les détails, c'est bien connu.
Oui, absolument. C'est évident. Bien, mais écoutez, on va essayer.
Est-ce que je peux terminer pour appeler tous les justiciables à venir à venir avec nous le 30 mars dans cette journée de mobilisation. Il y a une manifestation des avocats, des greffiers, des magistrats dans Toulouse. C'est assez rare pour être souligné. Le 30 mars, c'est vendredi. Moi, j'invite les justiciables à venir avec nous dans le cortège, hein, puisque nous partirons du palais de justice pour aller jusqu'au tribunal d'instance. À partir de 14h, si ma mémoire est bonne, pour effectivement déposer notamment une gerbe à la mémoire du tribunal d'instance qu'on enterre avec perte et fracas dans cette loi de programmation. Donc venez tous nombreux le 30 mars manifester avec les avocats, les greffiers et les magistrats.
Et bien, tant qu'il s'agit, merci des droits de la défense et des libertés publiques, je crois qu'on sera nombreux à vos côtés. Merci Maître Boyadjan, vice-bâtonnier. Merci Maître Nathalie Dupont-Ricard. Merci Maître Dunac d'être venu. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec aux manettes Jean-Loup Arzac. Merci Jean-Loup. La semaine prochaine, bien Cap cherchera des œufs dans la campagne lotoise, donc nous ne serons pas au micro, mais on vous retrouvera plus tard avec un rugbyman qui donne dans l'agriculture. Donc vous verrez ça, ce sera dans 15 jours. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Esprit Occitanie ainsi que sur le site de la station. N'oubliez pas, rediffusion demain de l'émission à 11h ainsi que ce week-end. Qu'on se le dise, bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.